Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Ésaïe et au chapitre 55. Le livre d'Ésaïe et au chapitre 55. C'est un de ces passages classiques de la parole. Vous savez, le prophète Ésaïe est peut-être appelé aussi l'évangéliste de l'Ancien Testament. C'est lui qui a... C'est le livre qui nous présente de manière la plus complète presque tout l'essentiel de l'évangile et du salut en Jésus-Christ. Et là, nous sommes dans ces quelques chapitres qui vont depuis le chapitre 52, ça commence à la fin du chapitre 52, verset 13, et puis tout le chapitre 53, et ensuite nous avons ce chapitre 55 et 56 jusqu'au verset 8, où nous présente en fait Jésus-Christ. Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, le serviteur, il est appelé le serviteur dans le chapitre 53, 52. Et puis aussi, il est appelé dans ce chapitre 55, il est aussi appelé le chef et le dominateur, au verset 4, 55, 4. Et donc, nous avons Jésus, le serviteur, nous avons Jésus, celui qui va diriger ce monde. Un jour, ce sera de manière directe, et c'est lui qui établira la paix et la justice. Et c'est une promesse qui reste, qui demeure. Souvent, nous avons cette idée que Jésus-Christ est venu pour mourir et pour sauver les hommes. Et c'est juste, et c'est tout à fait raison, et il ne faut jamais cesser de le dire. Jésus est venu pour mourir pour le pécheur. Mais ce n'était pas la fin, c'était en vue de ce qu'il voulait accomplir. En fait, il fallait qu'il meure sur la croix, que son sang soit versé. C'était pour justement écarter cet obstacle qui empêchait la réalisation du reste. C'est que le désir de Dieu, c'est que des hommes pécheurs viennent et l'adore. Ce que Dieu cherche, ce sont des adorateurs. Ce n'est pas seulement des sauvés. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas de garnir son ciel avec des bibelots qui nous ressemblent, mais c'est d'avoir des adorateurs. Et si vous lisez, vous n'allez pas très loin dans l'Apocalypse, vous voyez que quand il parle des rachetés, eh bien tout de suite, ils sont en train d'adorer, ils sont en train de chanter la louange de l'agneau. C'est ça la vie chrétienne, c'est pas seulement être sauvé, alléluia je suis sauvé, et il y a tellement de chants qui se basent sur ce thème, et c'est très bien, mais c'est qu'une partie de l'histoire et du plan de Dieu. Et comme vous le voyez au chapitre 56 et à la fin du verset 7, il dit « Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Et ça, c'est l'objectif final, que sa maison soit une maison de prière pour tous les peuples. Et pas un lieu de culte, un lieu de prière, de communion, où nous sommes là pour recevoir et donner. Donc, je vais lire ce chapitre 55. Verset 1, je commence. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille. Et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations que tu ne connais pas, qui ne te connaissent pas, accourront vers toi. À cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Et remarquez là, au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, et au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Que Dieu bénisse et vous accorde la bénédiction qui provient de la lecture de la parole. Vous savez, là, il fait mention de David à la fin du verset 3. Et il se souvient de ses promesses auprès de David. Et il nous parle justement du descendant de David. Et ce sera une alliance éternelle parce que justement, le dernier descendant de David est un homme éternel, hein, Jésus-Christ lui-même. Et ce descendant de David est aussi le descendant d'Abraham. Hein, et lorsque Abraham a été obéissant jusqu'à offrir son fils sur l'autel, eh bien là, Dieu a exprimé cette promesse. Il dit je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui sur le bord de la mer, et ta postérité possédera les portes de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénis en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Et donc, le fils de David, qui est justement celui dont on parle ici, et celui qui apportera toute cette transformation, eh bien, c'est aussi le fils d'Abraham. Et vous avez remarqué qu'il dira, eh bien, que toutes les nations de la terre seront bénies. Comme on l'a dit, le grand objectif de Dieu n'est pas seulement de pardonner le péché, mais c'est aussi que Israël, qui se sont éloignés du Seigneur, et les nations et les peuples, eh bien, tous se rassemblent et viennent adorer Dieu dans sa maison. Ce principe de venir adorer, prier Dieu dans sa maison, c'est quelque chose qui n'a pas été compris. Et il n'y a que Jésus qui a réagi vivement. Hein. Et par deux fois, il fera le ménage dans la maison de son père. Certains sont même choqués la méthode qu'il a utilisée. Mais c'est que il savait que on créait un obstacle. Les païens n'étaient pas bienvenus dans ce temple. Et même, ce n'était pas une maison de prière. Et Jésus dira, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et ce n'est pas... vous savez, le temple, oui, il était là. Il y avait un beau bâtiment. Hérode avait fait quelque chose de bien, d'extraordinaire. Ce n'était pas à la hauteur de ce que Salomon avait fait, mais c'était quand même un beau bâtiment. Et il y avait toute la forme, il y avait tout le rituel, il y avait tout. Mais Jésus a dit, non, mais ça, c'est une caverne de voleurs. Et comme il a été prié même tout à l'heure, c'est que nos églises ne soient pas seulement un lieu qu'on appelle lieu de culte, que ce ne soit pas un lieu de rassemblement, et que ce soit pas mais que ce soit vraiment un lieu de prière, d'adoration. C'est là où tout le monde et tous peuvent venir et connaître Dieu et prier et le découvrir et puis ensuite le connaître, parce que la vie éternelle, c'est de le connaître. Et Jésus est le seul qui a compris cela, à ce moment-là, il a réagi. Et quand nous voyons que c'est peut-être le moment où il a réagi le plus violemment, eh bien, nous devons prendre note de ce qui l'a choqué et nous dire, mais que Dieu nous préserve de cette erreur aussi. Hein, on n'est pas là pour montrer les Juifs de l'époque du doigt, mais on est là pour se regarder dans le miroir et voir si nos rencontres ne sont pas aussi une rencontre d'hypocrites et de personnes doubles qui sont le dimanche sont d'une nature et en semaine ils sont d'une autre nature. Et là ici dans ce chapitre, alors l'Éternel veut traiter deux obstacles à la marche, à cette adoration, deux obstacles. Il s'attaque à des idées que les hommes se font. La première idée que les hommes se font, et on le retrouve dans toutes les religions, c'est qu'il y a cette idée qu'on veut faire quelque chose pour obtenir notre salut. On aimerait ou se rendre digne, ou pouvoir donner quelque chose en échange pour le salut, ou s'élever jusqu'à la hauteur requise pour plaire à Dieu. Et c'est cet objectif, il y a toutes sortes de manières qui sont proposées. Et puis après, il y a ceux qui ont leurs idées individuelles, soit de redéfinir le mot péché, afin que tout d'un coup, on se retrouve innocent, et puis alors on se croit à la hauteur, ou bien c'est d'en faire une définition, redéfinir ce qu'est l'amour de Dieu, et au point qu'on le rend aveugle, et il ne voit aucun péché, il ne voit aucun défaut, et puis il est tellement doux et il laisse tout passer. Et toutes sortes de théologies qui existent et qui circulent, les unes plus extraordinaires que les autres. Mais Dieu dit, c'est un grand problème. Ce fait de vouloir, de croire, de vouloir utiliser sa pensée pour essayer de se frayer un chemin jusqu'à Dieu. Et la grande question, c'est comment vraiment accéder à Dieu. La première chose que Dieu soulève, la première question qu'il pose, il dit pourquoi au verset 2, il dit pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas ? Bon, on parle déjà dans le monde qui nous entoure, on nous parle de ce qu'on appelle la malbouffe, hein, mais spirituellement. Je me demande combien d'enfants de Dieu sont affamés parce qu'on ne leur donne pas le pain de vie, ou on ne leur donne que des croutons de la parole de Dieu. Quelqu'un m'a appelé il y a 2-3 jours, m'a dit « je cherche une église ». Et puis j'en ai trouvé une, mais bon, ils passent tout leur temps à la louange, et puis après, pour l'enseignement de la parole, alors c'est tout petit, c'est très court à la fin. Quelques croutons pour la semaine. Oui. Il dit « pourquoi dépensez-vous votre argent, pesez-vous cet argent pour ceux qui ne nourrissent pas ?» Et il ajoute « et pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas ?» Tout le temps, pour répéter la même chose, toujours continuer. Il y a les programmes, surtout dans notre région ici, l'été. Alors, il y a quelque chose. Tous les week-ends, il y a de quoi occuper le week-end. Il suffit de dépenser un petit peu, déplacer un petit peu. Et il y a de quoi remplir le temps et remplir la journée. Mais ensuite, la semaine d'après, il faut encore quelque chose. Et il dit, pourquoi courez-vous après ceux qui ne rassasient pas ? Le comportement spontané des humains est de vouloir payer pour obtenir le salut ou de dépenser ses moyens pour oublier le besoin du salut. Alors des fois on a dit ben, le plus simple c'est de dire ben, Dieu n'existe pas, et si Dieu n'existe pas donc il n'y a pas de danger, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de salut à rechercher, et puis tout est bon, amuse-toi. Oui, mais nier un danger pour pouvoir mieux s'amuser, Est-ce que ça apporte un vrai plaisir? Je me rappelle en tant que gamin, parce que je n'ai pas toujours été ange, ce n'est pas pour dire que j'en suis un aujourd'hui, mais y avait des moments où on savait que les parents ils demandaient quelque chose. Mais c'était pour la fin de la journée. Ils allaient s'absenter pour la journée et il y avait des choses à finir pour la fin de la journée. Et alors, pendant les premières heures, alors là, on fait comme s'ils n'allaient plus jamais revenir. Alors on s'amuse et tout ça. Et puis après, 2 heures avant, on dit « Ah, ils vont rentrer bientôt !» Puis alors, tout le monde s'active. Et puis, le grand frère que j'étais, on met les autres au travail. Et puis, on essaye de tout finir rapidement pour que ça ait au moins l'air d'être fini quand ils arrivent. Mais je crois qu'il y a beaucoup de ça dans le monde de tous les jours. On se dit, on s'amuse maintenant parce que plus tard, quand je serai vieux, j'y penserai. Et oui, mais il y a des jeunes qui meurent aussi. Et récemment, il y en a qui ont été enterrés. On veut... Mais lorsqu'on écarte les personnes et on les a tout seuls, il y a quand même un petit quelque chose, un petit doute au fond d'eux. Ils se disent, oui, mais je ne suis pas si sûr que ça, qu'il n'y a rien. Parfois, dans certaines circonstances, ça apparaissent. Je parlais avec une dame il y a 2-3 jours. Elle disait, mon mari était tellement opposé, il ne voulait même pas me laisser moi. Les quelques fois qu'elle a pu aller dans une réunion, c'est pendant qu'il était au foot. Et elle a... En cachette, elle a été dans une assemblée. Jusqu'au jour où il a eu quelque chose de vraiment sérieux. Au point où le médecin lui a dit, « Monsieur, moi, je ne peux plus rien pour vous. Vous pouvez aller acheter un cierge et l'allumer, peut-être ça aidera. » C'est tout ce qu'il avait proposé. Alors, ça vous donne une idée de où en était la situation. Et là, l'épouse dit, « Tu sais, on a le beau-frère et puis... puis la belle-sœur, et on pourrait prier pour toi. » Et là, il était tellement athée, mais quand dans cette circonstance-là, il a dit, ben, écoutez, allez-y, si vous voulez. Et ce monsieur est encore vivant, maintenant ça fait quelques années, il est encore vivant. Le médecin l'appelle un miraculé, et elle dit, maintenant je peux aller à l'église, et elle m'a dit, fin octobre, je me fais baptiser. Et oui, mais quelque part, il y a quelque chose, il y a un petit doute au fond. Et puis, il y a des circonstances qui vraiment mettent en question cette assurance que Dieu n'existe pas. Et parce qu'il y a quelque chose dans le cœur de l'homme. Il y a ce sentiment de l'éternité et qu'on n'arrive pas à expliquer. Et le Seigneur est là et il dit, vous tous qui avez soif, verset 1, vous tous qui avez soif, venez à moi. Il y a deux verbes là, venez. Venez auprès des eaux, venez. Et puis, il ajoute au verset 5, il dit par 2 fois, il dit écoutez. Venez, écoutez. Là, je vais dire 2 mots, parce qu'il y a certains qui sont tellement, qui font un tel cas de la souveraineté de Dieu, au point que, C'est Dieu qui fait tout, c'est Dieu qui décide ceux qui sont sauvés, ceux qui sont perdus. Et ils pensent que en faisant un tel cas de la souveraineté de Dieu, qui décide de tout, et ça ressemble trop à parfois avec les musulmans avec qui j'ai affaire, ils ont cette idée, c'est la souveraineté de Dieu qu'ils expriment par cette expression de Allahu Akbar. Mais que Dieu décide de tout, il est le plus grand, il est au-dessus de tout, et on pense le glorifier. Mais moi je vois Dieu glorifié d'une manière encore plus extraordinaire, parce qu'il laisse les hommes libres faire ce qu'il veut, et le résultat, il arrive à accomplir ce qu'il veut. Dans une armée, c'est sûr, il y a un général qui commande et qui dit à tout le monde ce qu'il doit faire, et il n'y a pas de choix pour qu'accomplir. Mais notre Dieu est tellement grand qu'il peut laisser les gens libres de faire ce qu'ils veulent, et à la fin de la journée, c'est ce qu'ils voulaient qui s'accomplit. Et moi je dis, ça c'est encore plus extraordinaire, parce qu'un homme peut s'armer, peut s'imposer, et obtenir ce qu'il veut par la force. Mais notre Dieu ne s'impose pas par la force, mais par son amour. Il est souverain et sait utiliser les circonstances pour obtenir ce qu'il veut. Et il laisse l'homme libre. Et l'homme qui vient à lui vient. Et là, il dit, venez. Il dit, vous avez soif, venez. Mais vous, venez. Et je vous promets, je vous reçois bien. Mais venez. Il dit, écoutez, j'ai des choses à vous dire. J'ai des bonnes choses. J'ai des paroles pour vous. Mais venez. Et il y a cette invitation. Vous tous qui avez soif, venez. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons un Dieu, et il le dit au verset 11, si vous avez remarqué en passant, il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Les desseins de Dieu se réalisent. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre a mis cela en valeur lorsqu'il parlait de et Hérode et Pilate qui ont comploté ensemble pour faire ce que leur cœur méchant voulait faire. Et les pharisiens se sont mêlés aussi avec leurs mauvaises intentions. Et le résultat, c'est que le plan de Dieu s'est réalisé à l'heure même où il fallait le faire. Et il a pu ressusciter ce dimanche matin et être victorieux. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Et il est en mesure de dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et le moment où on arrive à Dieu, et j'ai comme le sentiment que c'est moi qui ai décidé de venir, et c'est moi qui décide de venir à lui aujourd'hui, c'est à moi qui j'ai l'impression d'avoir pris l'initiative, et tout vient de moi, et quand j'arrive, je le trouve tout prêt. Et il a un plan tout fait pour moi. Et il dit ici, j'ai pour vous, je traiterai avec vous une alliance éternelle. J'ai un plan tout fait, et qui est pour toujours. Une alliance éternelle. Quand il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'ils boivent. Et ensuite il dit, et vous savez, j'ai tout fait pour pouvoir offrir. C'est comme celui qui loue son appartement, et vous vous présentez, vous dites, d'accord, je suis prêt à prendre, et puis vous trouvez qu'il y a un contrat tout signé, tout rédigé, tout prêt, il suffit de signer. Bien, c'est ce que Dieu a fait. Il a un contrat tout préparé, une alliance toute prête. Il dit, j'ai signé déjà. Il ne suffit que tu signes et c'est bon. Et il suffit qu'on vienne à Christ. On dit, Christ, je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je crois que tu es le Fils de Dieu, le bien-aimé du Père. Et je reconnais que je suis un homme pécheur. Et je veux recevoir ce salut que tu offres par ton sang versé. Et il dit, écoute, voilà, c'est tout prêt. Tu n'as qu'à signer. Et c'est à toi. Et tout d'un coup, on trouve que c'est une alliance éternelle. Et je veux corriger quelque chose, parce que c'est pas un piège. Hein, parfois, quand on signe un contrat, puis tout d'un coup, on se retrouve, oh là, je suis engagé pour 3 ans. Je suis engagé pour 15 ans. Quand je commence à lire le bas de la page, je me rends compte que c'est pas facile de sortir de là. Le plan de Dieu, c'est pas un piège. Il dit c'est une alliance éternelle, c'est pour me rassurer. Il me dit il n'y a pas de fin. Quand tu rentres là-dedans, c'est bon pour toujours. Tu n'as rien à craindre. Et il appelle ça une alliance éternelle, non pas pour nous dire que nous sommes pris pour de bon, mais pour nous dire que nous sommes en sécurité pour toujours. Et qu'avec ces garanties, eh bien, nous pouvons nous réfugier en Dieu, notre Créateur. Nous l'avons retrouvé, et même si on a pu s'écarter, il fut un temps dans le jardin d'Éden où l'homme a pu faire le choix et s'écarter de Dieu, se séparer de Dieu. Mais maintenant, quand on le retrouve, on le retrouve pour toujours. Et ce passage n'est pas pour Israël seulement, même si Israël est inclus, et bien sûr, c'est eux les premiers qui entendent ce message. Mais lorsque l'apôtre Paul cite justement ce chapitre dans Actes chapitre 13, eh bien, il est en train de parler, c'est sûr, dans une synagogue, il est en train de parler au chef de la synagogue et en train de leur présenter tout ce plan que Dieu a préparé. Et à la fin de leur première rencontre, ils disaient, on aimerait t'entendre une autre fois, plus t'entendre. Et ce que nous trouvons, c'est que la semaine d'après, eh bien, tout d'un coup, la synagogue est remplie de hellénistes qui cherchent, d'hellénistes pieux, il nous dit, de païens pieux, qui veulent entendre le message. Et bien sûr, là, tout d'un coup, il y a de la jalousie, et Paul est obligé de partir, mais il se retrouve avec les païens. Parce que le message, ce message, est premièrement présenté à Israël. Ils ne sont pas automatiquement sauvés parce qu'ils sont Israël. Ils doivent croire. Il y a des promesses pour eux en tant que peuple, mais le salut éternel, c'est individuel. Et bien, ce message est aussi pour les nations. Pour tout. Et donc, il parle, et justement, on voit ici, au verset 5, il dit « Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissaient pas accourent vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu. » Il dit, voilà, des peuples que tu n'as pas connus. Et ce rassemblement que le Nouveau Testament appelle l'Église de Jésus-Christ est bien composé de gens qui ont répondu à cet appel. Après, il y a un second obstacle dont je vous ai parlé, qui est celui de la pensée humaine. L'homme, eh bien, quelque chose, et tous nous l'avons commis cette fois, c'est de croire que ce qu'on pense, c'était quand même pas mal. Hein, de temps en temps, on se dit, mais moi j'ai une bonne pensée. Et on est étonné que les autres ne remarquent pas. On est même offensé parfois. Mais Dieu dit, mais écoutez, je ne suis pas, ça n'a rien à faire avec vos pensées. Et la preuve, c'est que lorsque nous circulons dans le monde et que nous voyons ce que les hommes ont pensé et les moyens de salut qu'ils nous proposent, c'est des moyens de salut qui sont à la portée de l'être humain, avec quelques efforts bien sûr. Mais le problème, c'est que c'est inefficace, ça ne suffit pas. On a inventé toutes sortes d'idées. Il dit, écoutez, la première chose, vos pensées ne sont pas mes pensées. Je ne suis pas selon vos pensées. Parfois, on nous accuse, on dit, mais vous avez inventé Dieu parce que vous ressentez un besoin, une faiblesse. Non, non, on n'a pas inventé Dieu. Le Dieu de la Bible n'est pas inventé par les hommes, sinon il aurait ressemblé aux hommes. Heureusement que les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Et ses voix sont au-dessus de nos voix. Et c'est ce qui me rassure. Et c'est à moi de m'aligner sur ses pensées, d'adopter ses pensées, de répéter ses pensées avec lui, de penser ses pensées derrière lui. C'est lui le diapason, et tous les pianos sont accordés selon ce diapason. Il est, et c'est à nous de nous aligner sur lui. C'est à nous de comprendre sa pensée. Là, souvent dans les discussions, les gens disent, mais moi je pense que Dieu, et moi je conçois que, et puis alors, c'est pour ça qu'on a la salade qu'on a aujourd'hui, même dans nos églises évangéliques. Parce que chacun veut un peu mettre un peu de sa pensée, parce qu'il pense qu'il pourrait améliorer sur celle de Dieu. Non, non, celle de Dieu, elle est très bien. Et c'est à nous de nous aligner sur sa pensée, de la comprendre. Et il en a mis une que nous pouvons suivre. Il est dangereux, erroné, de chercher à concevoir Dieu dans nos pensées. Dieu dit, écoutez, et c'est là ce qu'il dit au verset 6, il dit « Cherchez l'Éternel ». Pas essayer de l'imaginer, cherchez-le. Il existe déjà et il est personnel. C'est une personne. Cherchez l'Éternel invoquez-le. Et il dit surtout, faites-le le plus tôt possible, dès maintenant. Il est prêt maintenant. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il s'est approché des hommes. Il a pu toucher l'homme pécheur. Dans l'Ancien Testament, si on touchait une chose souillée, on était souillé jusqu'au soir. Mais Jésus-Christ a pu toucher un lépreux, et ce n'est pas lui qui était souillé, c'était le lépreux qui était purifié. Il a pu toucher un mort, et il n'était pas impur jusqu'au soir, c'est le mort qui est devenu vivant. Et dit, approchez-vous de lui tandis qu'il est prêt. Il est disponible. En hébreu, il nous dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Aujourd'hui. Et alors, il y en a cette idée encore de nos jours, c'est ces gens qui veulent, ils disent, bon, ben d'accord, je trouve ça c'est assez sympa, c'est pas mal votre évangile. C'est un Dieu d'amour, puis en plus il veut nous sauver gratuitement, c'est gratuit, il l'offre, il suffit de demander, on l'a. Ben, écoutez, moi je veux bien, si lui il veut donner, s'il veut distribuer, moi j'accepte. Hein. Et puis si ça ne pourrait pas faire de mal, puis un jour, peut-être à la mort j'aurai besoin. Hein. Donc il y a des gens qui se trouvent vraiment généreux en pensant comme cela. Dieu disait, non, c'est plus compliqué que ça. Au verset 7, il dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées et qu'il retourne à l'Éternel. C'est une question, il faut laisser ce que nous avions pour nous attacher à lui. Il dit que le méchant abandonne sa voie, que l'homme d'iniquité ses pensées. Il y a une repentance qui précède la réception du salut. Et je crois que c'est quelque chose qui se dit plus beaucoup. On laisse venir les gens dans n'importe quel état, et puis on le dit, mais écoute, c'est pas grave, et puis Dieu t'aime. Mais bien sûr qu'il t'aime. C'est pour ça la preuve, c'est que Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais il dit, il y a une repentance. Pierre, à Jérusalem, tous ces Juifs qui étaient contents d'être des descendants d'Abraham, et qui étaient contents d'eux, et puis qui se croyaient un peuple particulier, ils l'étaient, mais pas dans le sens que eux le croyaient. Il dit, repentez-vous. Jean-Baptiste est venu, il a précédé, il préparait la voie du Seigneur. Il annonçait, il ouvrait la voie pour le Seigneur. Et quel était son message? Repentez-vous. Jésus lui-même a commencé par dire, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Et se repentir, c'est une question d'abandonner quelque chose. Ce n'est pas seulement de dire, je regrette. Non, c'est abandonner, laisse tomber, abandonne cette voie et prends cette nouvelle voie. Il dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Éphésiens chapitre 4, il nous dit que celui qui volait ne vole plus, mais qu'il travaille afin non seulement de pouvoir ses besoins, mais avoir de quoi donner. Ça c'est un changement, ça c'est une conversion. Là le mot... Il a tout son sens. Quand j'abandonne une vie pour en adopter une nouvelle. Il dit, et ensuite vous venez à un Dieu, à la suite du verset 7, il dit, mais c'est alors. Il dit, d'abord abandonne ta voix, change tes pensées, retourne à l'Éternel qui a pitié de toi et à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il dit, mais il a envie de pardonner, il veut pardonner. Et l'apôtre Paul reprend ça un peu dans Romains chapitre 6. Il dit, mais non, c'est pas, vous n'êtes pas en train de rendre service à Dieu, de multiplier les péchés pour qu'il puisse pardonner, puisqu'il aime pardonner. Ben, autant lui donner du travail. Non, ce n'est pas la pensée. Il dit, abandonne ta voix. Et c'est vrai que, et je parlais, il y a deux jours, je parlais à un jeune qui disait, moi j'ai fait une bêtise... Et j'en ai honte, et Dieu ne peut pas me pardonner. Je dis, mais Dieu peut pardonner. Mais il dit, mais moi, je ne peux pas me pardonner. Je ne peux pas imaginer qu'il me pardonne. J'ai dit, mais non, mais c'est une question. Tu reconnais cette faute. Tu reconnais à Dieu cette faute. Bien sûr qu'on ne peut pas tout rétablir, corriger, réparer. Il y a des choses qui sont faites, elles sont faites. Mais... si tu reconnais la faute et si tu reviens à Dieu, Dieu est prêt à pardonner. C'est-à-dire que c'est pas que la faute n'a jamais été faite, mais c'est qu'il dit je te pardonne, ça veut dire je n'en parle plus. Même si toi tu t'en souviens encore, et nous en souviendrons, beaucoup de nos péchés, nous nous souviendrons de nos péchés, tout comme l'apôtre Paul se souvenait qu'il avait été un homme violent et tout cela, il se souvenait de ce qu'il avait été, mais en même temps il savait que Dieu ne le voyait plus de cette manière-là, mais le voyait à travers de Jésus-Christ. Et ça fait partie de ce salut que nous avons en Jésus-Christ, parce que le jour où on arrivera dans la gloire, là aussi notre mémoire sera purifiée et nous n'aurons plus ce souvenir. Et ça sera la joie totale dans le ciel parce qu'on se souviendra. Mais pour l'instant, c'est quand même, je crois que Dieu, dans sa sagesse, il permet que certaines choses nous restent dans la mémoire. Parce que sinon, on deviendrait un peu trop fiers. Hein, tout d'un coup, on serait dur avec les autres. Si j'oubliais ce que j'avais été, je serais dur. Alors qu'est-ce que tu as là? Relève-toi, commence à vivre pour le Seigneur, la victoire. Souviens-toi, toi, combien ça a été difficile pour toi. Sois patient avec ton frère. Encourage-le, soutiens-le, accompagne-le. Porte-le jusqu'à ce qu'il apprenne à marcher. Le publicain, vous savez, il y avait ce pharisien, ce publicain, Jésus parlait d'eux dans Luc chapitre 18, et je ne vous rappelle pas la prière du publicain, du pharisien, ils avaient leur manière de prier, et qui n'allait pas plus loin que... Le seul qui entendait sa prière, c'était lui-même. Mais le publicain, il a prié, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un homme pécheur !» Jésus dit, ah, cette prière-là, elle était entendue. Et il a dit, cet homme est rentré chez lui justifié. Il n'a pas dit innocent, justifié. Ça veut dire qu'il est déclaré juste. Il n'avait pas été juste, il est maintenant déclaré juste. Et les publicains qui ont été justifiés, moi j'en connais deux dans la Bible déjà. Il y a un certain nommé Matthieu qui est l'évangéliste et qui a rédigé l'évangile. Et puis un certain Zachée aussi, qui a été justifié, parce que Dieu peut pardonner, même si dans ces deux cas, Zachée, certainement qu'il y a beaucoup de Juifs qui ne l'ont jamais pardonné. Et il se peut que vous ayez des gens dans votre entourage qui ne vous pardonnent pas certaines choses. Mais Dieu peut pardonner. Et Dieu, et là, il ne se lasse pas de pardonner, mais il faut confesser. Et confesser, c'est dire ce que lui dit de la chose. Venir dire à Dieu, dire, écoute, je sais que ce n'était pas bien, j'ai mal réagi, mais c'est quand même, c'est lui qui m'a provoqué, et puis tu sais, on est tous faibles, on n'est pas meilleurs que les autres. Hein. Ça, ce n'est pas de la confession du péché. Hein. Ça, c'est rien du tout, ça, c'est des excuses, et on essaie de se justifier. Confessez-y, Dieu, tu as dit que mentir, c'était du diable. Donc, voilà, je confesse, je me suis laissé influencer par lui. C'est mon ancienne nature qui est ressortie, et je te demande de me donner la victoire. Et c'est dire de la chose que Dieu dit. Et on n'a pas besoin de lui donner des excuses, lui connaît tous les détails. Mais il dit alors, comment cette œuvre se fera-t-elle? Il dit, écoutez, comptez sur ma parole. Ma parole peut faire l'œuvre. Il a dit, je vous donne une image. Il dit, la pluie et la neige qui tombent du ciel. Quel est le rapport entre la pluie qui tombe du ciel et la baguette de pain à la boulangerie? Non, il n'y a pas de rapport direct. Sinon, il dit que la pluie tombe, fait germer la semence, et puis après, il y a l'épi qui est moissonné, et puis après, ça passe au moulin, et puis le boulanger en fait du pain, et puis alors le semeur, il se retrouve avec une baguette. Il dit, il y a tout un processus là, et le résultat, c'est il y a la baguette qui nourrit, il y a le pain qui nourrit. Il dit, ma parole, c'est de la même manière. Il dit, dans ta tête, tu n'arrives pas à voir le rapport entre ce qui est marqué dans le texte biblique qui nous a été révélé et le résultat qu'il demande. Mais il dit, écoute, fais confiance. Parce que si l'eau qui tombe peut accomplir et produire du pain, il dit combien plus cette parole qui sort de ma bouche, celle qui a créé le monde en une semaine, cette parole qui a fait sortir Lazare de la tombe, cette parole qui a donné de la consolation à celui qui a abattu, cette parole que nous avons encore aujourd'hui qui nous parle. Il dit, fais confiance, cette parole, elle accomplira. Et donc, il dit au verset 11, il dit, ainsi en est-il de ma parole. Ainsi, de la même manière, autant et même, c'est même plus vrai, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point sans effet, point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ce que Dieu veut réaliser en moi, il le fera. Ne te demande pas comment. Et si c'est possible, oui, peut-être il arrivera avec Jean, mais moi, tu ne me connais pas. Je n'ai pas besoin de connaître. J'ai besoin suffisamment, je connais Dieu, et je connais sa parole. Et puis maintenant, après quelques années dans le service de Dieu, j'ai vu des choses extraordinaires arriver, où la parole de Dieu a transformé des vies. Ainsi en est-il de ma parole. Il dit le résultat, eh bien au verset 12, oui, sortira avec joie. Vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Rien que deux mots là, qui, en fait, ces deux mots réunis dans la vie de quelqu'un, c'est que du bonheur. Les gens courent loin pour avoir un peu de joie, et finalement ils trouvent que un peu de plaisir passager. Et puis les gens, ils dépensent des sommes faramineuses pour avoir la paix, et tout ce qu'ils obtiennent au maximum, c'est un cessez-le-feu. Mais il dit, mais Dieu, il produit la joie qui ne pourra être ravie et cette paix qui demeure avec nous pour toujours. Vous savez, la joie et la paix sont le fruit de l'esprit. Si je dis que l'orange est le fruit de l'oranger, ça veut dire que chaque fois que je trouve une orange, je sais que ça vient d'un oranger. Si je dis que la paix, la joie, c'est le fruit de l'esprit, ça veut dire que quand je trouve la vraie joie et la vraie paix, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Le diable, il ne produit jamais du fruit de l'esprit. Alors là, ça c'est contraire à lui. Il peut aider les gens à produire de la louange. Ça, il sait le faire. Vous savez, n'importe qui peut être batteur. N'importe qui peut chanter. N'importe qui peut faire des prières, dire des belles choses. Mais il y a des inconvertis qui arrivent à faire mieux que moi. Pourtant, j'ai de l'expérience. Mais produire du fruit de l'esprit, alors là, le diable, il ne sait pas. Il ne sait pas encourager quelqu'un à dire la vérité. Il ne sait que dire des mensonges. Il ne sait pas encourager les gens à aimer. Il est toujours là et s'il intervient, tout d'un coup ça devient de la haine, de l'irritation, de la bagarre, de la dispute et autre chose. Il ne sait pas mettre la paix. C'est contraire à lui. Alors quand il y a la paix, quand il y a la joie, eh bien c'est l'œuvre, ce sont les signes incontestables. Quand vous cherchez quelqu'un pour voir si c'est un enfant de Dieu, ne cherchez pas à voir s'il sait prier ou s'il a appris 300 versets de la Bible. Mais je me rappelle, il y en avait un quand j'étais en Égypte, à Paris. Je dis Égypte parce qu'il était égyptien, mais ça n'a rien à faire. Il avait de ses prières, oh là, c'était des chefs-d'œuvre littéraires quand il priait. Pour ceux qui comprenaient l'arabe, c'était beau. Et puis les versets bibliques, alors il les connaissait tous. Mais c'était un gars tordu qui faisait travailler avec les gens, les sans-papiers. Il leur volait leur argent en leur promettant de leur faire les papiers. Et puis ils mangeaient tout ça. Et puis ils n'avaient rien à la fin. Finalement, c'est ressorti. Et oui, c'est pas parce que n'importe qui peut. Hein? peux apprendre le langage. Vous prenez un peu de temps, vous pourrez enseigner à un perroquet de prier, de dire une prière, mais pas de prier. Vous vous rappelez l'autre soir que j'ai dit, est-ce que quand vous priez, est-ce que vous priez? Hein, c'est une bonne question. Est-ce que je prie quand je prie? Et là, le signe incontestable, il nous dit, écoutez, verset 13, il dit, au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Et au lieu de la ronce croîtra le myrte. Vous vous souvenez quand le péché est arrivé dans le jardin d'Éden, et puis après Dieu s'adresse à Adam et lui dit, écoute, toi, à partir de maintenant, la terre produira des ronces et des épines. Et c'est à la sueur de ton front que tu mangeras, tu vivras. Genèse chapitre 3. Et là, il nous parle d'une restauration. Il défait, il délivre de la malédiction qui existait pour remplacer par autre chose. Il dit, au lieu de l'épine, eh bien, s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce, il y aura le myrte. Vous savez, l'Esprit de Dieu peut nous dire, au lieu de la jalousie, de la haine, du mensonge, de l'orgueil, eh bien va apparaître l'amour. Ça, c'est le remplacement. Hein, ce qui était de la nature pécheresse, ce qui est naturel au péché, eh bien doit être remplacé, l'épine doit être remplacée par le cyprès. Et le fruit de l'Esprit, bien sûr, vous savez, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Pas seulement l'un de ceux-là, c'est le tout qui est le fruit de l'esprit. Dans mon esprit, parce que je suis quand même, j'ai besoin de m'imaginer les choses. Et je pensais à une illustration, c'est vous savez, la lumière blanche. En physique, quand j'étais au lycée, bon, certainement ça se fait encore aujourd'hui, hein, parce qu'on voit les arcs-en-ciel, mais la lumière blanche passe dans le prisme et décompose cette lumière blanche en plusieurs couleurs. On ne savait pas qu'elles étaient là avant, et puis elles les décomposent, mais finalement elles sont toutes là. Moi je vois le fruit de l'esprit qui est là, et puis ça c'est l'amour de Dieu, et puis ça se décompose en plusieurs expressions. Hein, donc, quand il parle de l'amour, c'est l'amour qui se sacrifie pour les autres. La joie, c'est l'amour qui prend plaisir dans le bien des autres. La paix, c'est l'amour qui est en règle avec les autres. La patience, c'est l'amour qui est confiant que Dieu fera son œuvre chez les autres. La bonté, c'est l'amour qui cherche le bien des autres. La bénignité, c'est l'amour qui traite les autres avec douceur. La fidélité, c'est l'amour qui respecte les autres. La douceur, c'est la grâce qui est exercé dans l'intérêt des autres. La tempérance, c'est l'amour qui se maîtrise dans l'intérêt de tous. Mais c'est toujours l'amour. C'est grâce à l'amour que je suis patient. Ce n'est pas parce que je suis fataliste que je suis patient. C'est parce que j'ai confiance que Dieu fera son œuvre. Et donc que je peux attendre. Je suis fidèle parce que je sais que l'œuvre se fera. Le travail. C'est motivé par l'amour. Tout est. Et c'est là où je vois l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Je vois l'œuvre de la parole de Dieu. Je vois que, vous savez, on a quitté le principe de la vie passée et maintenant on vit selon un autre régime, une autre pensée, une autre manière de concevoir. C'est carrément, si vous voulez, le mot philosophie, une autre philosophie, celle de Dieu. C'est d'autres valeurs. Il nous dit, vous qui avez soif, eh bien, venez. Venez à Dieu, invoquez-le. Ne concevez plus Dieu selon vos pensées, mais essayez de le voir selon sa révélation. Il s'est révélé dans la parole, il s'est révélé à travers du Fils, Jésus-Christ. Et on le voit aussi révélé dans l'œuvre de Christ, dans le ministère de Christ terrestre. C'est ça Dieu. Hein? Donc il suffit d'étudier, de prendre l'évangile et de lire l'évangile. Il dit, je veux voir, je veux comprendre Dieu. Et tu regardes Jésus-Christ et tu lis les paroles de Jésus-Christ. Et puis après, tu vois comment il s'est comporté et comment il a réagi. Et quand il s'est tu et quand il a parlé, quand il a fait et quand il n'a pas fait. Ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait. Et c'est là qui me permet de comprendre et puis de me refaire une idée de qui Dieu est et comment il se révèle à moi. Il dit maintenant c'est à toi de prendre cela comme exemple, comme modèle et de suivre. Il dit et ma parole fera son œuvre. Et puis quand il s'investit dans nos vies, eh bien son esprit est là et son esprit réalise cette œuvre. Écoutez sa parole et il fera son œuvre. Ce n'est pas à moi de transformer ma vie, c'est à lui qui transforme ma vie. Et au fur et à mesure, c'est peut-être un mot que j'ai inventé, construit selon le mot pétrification. Pétrification, c'est lorsque les cellules organiques sont remplacées par des grains de sable et éventuellement ça devient une pierre. Et là, on peut avoir des forêts pétrifiées, mais ce sont des souches d'arbres qui ressemblent exactement, de loin, on dirait une souche d'arbres, mais quand on arrive, c'est de la pierre. Eh bien, ce que Dieu veut faire pour nous, sa transformation, c'est cette christification. C'est au fur et à mesure, il enlève des points de notre nature et les remplace par la sienne. Et il y a un moment où ça ressemble toujours au vieux Steve, mais quelque part, la nature, elle est différente, elle ressemble plus à Christ. Oh, l'œuvre n'est pas terminée, hein, donc rassurez-vous. Mais il est en train de faire, j'espère. Et il transforme. Et il veut le faire chez chacun. Nous sommes tous, peut-être chacun à des étapes différentes, mais c'est l'œuvre qu'il veut faire, si nous voulons bien le laisser faire. Mais il a une belle œuvre à accomplir, et c'est une œuvre éternelle. Et je n'ai pas besoin de savoir ce que vous avez pu faire par le passé, ce que vous avez été, ce que les gens pensent de vous et ce qu'ils ne pensent pas de vous, ce qu'ils savent ou ce qu'ils ne savent pas. Parce que moi, je connais Dieu, je connais sa parole et je connais Jésus-Christ. Et je sais qu'il est capable de prendre n'importe quelle vie, de la transformer. Il a pris un personnage comme l'apôtre Paul, il l'a transformé. Et il a pris une gentille jeune fille comme la Vierge Marie et il a fait d'elle un disciple de Jésus-Christ. Tous, elle-même l'a appelé mon sauveur, Dieu mon sauveur. Nous pouvons et nous avons besoin de lui. Il n'y a pas des meilleurs, des bons et des mauvais. J'avais lu une fois un ouvrage écrit par un médecin. Il a écrit les hommes forts et les hommes faibles. Peut-être dans notre société, elle est composée d'hommes forts et d'hommes faibles. Mais Christ est mort pour tous. Et il nous transforme à l'image de Jésus-Christ. C'est son projet. Et il est capable de le faire. Et tant que je sais qu'il pense être capable de le faire, eh bien, je suis prêt à le laisser faire. Et c'est une œuvre éternelle. Vous connaissez votre état. Vous savez où vous en êtes. Et là, il y a une parole pour chacun d'entre nous. Cette parole qui est prête à faire germer la semence pour la première fois. Ou cette parole qui tombe, cette pluie qui tombe sur la semence déjà germée. Ou cette pluie de l'arrière-saison qui est là pour que l'épi se remplisse de grains. Peu importe à quel niveau, c'est toujours la même pluie, c'est toujours la même parole. Et qui veut faire son œuvre. Afin d'avoir, parce que Dieu désire que sa maison de prière soit une maison de prière pour tous les peuples, nous inclus et chacun inclus. Prions. Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants à toi pour ces paroles. Et ce sont des paroles ce que nous avons lues, ça date de plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Et pourtant, c'est le même message. Et ça reste toujours vrai. Et les apôtres ont pu puiser dans ce livre d'Ésaïe pour présenter ton plan du salut, en attendant que les évangiles soient rédigés. Père, ce message est encore valable pour nous. Et tu veux que des gens de tout peuple, de toute race, de toute nation, de toute langue, viennent t'adorer. Et dans cet enregistrement des événements futurs que nous avons dans l'Apocalypse, eh bien, nous voyons que tu l'as réalisé. Tu vas le faire. Au grand étonnement des anges, parce que tu es un Dieu qui prend plaisir à réaliser l'impossible et d'en tirer toute la gloire. Seigneur, tu préfères les moyens qui n'utilisent pas la force des hommes afin que toute la gloire te revienne. Parce que dès que nous avons une petite part, eh bien, ça nous monte à la tête. Toi, tu es digne de toute gloire. Parce que tu t'es abaissé jusqu'au plus bas point, jusqu'à devenir un criminel sur la croix. C'est pourquoi Dieu t'a souverainement élevé et t'a donné un nom au-dessus de tout nom. Et nous voulons que ton nom soit au-dessus de tout nom dans notre vie et dans notre marche tous les jours. Père, tu connais chacun et je te prie de faire ton œuvre dans le cœur de chacun. Continuons dans le silence et que chacun s'adresse à Dieu dans le silence de son cœur. Et les pensées qu'il a arrêtées avec vous, eh bien, priez-les avec lui, et afin qu'il puisse continuer son œuvre dans votre cœur. Père, que ces prières ne cessent pas en sortant d'ici, mais qu'elles soient avec nous pendant toute la semaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous propose un cantique. Le 151, 151, 151, 151.